Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Un commissariat de police attaqué à Champigny-sur-Marne en grande banlieue parisienne la nuit dernière. Une quarantaine d'individus sont arrivés armés de mortiers et de barres de fer pour s'en prendre à ce bâtiment situé au cœur d'une cité sensible. À Nantes, le personnel médical porteur du Covid-19 mais asymptomatique continue de travailler au CHU. Le Haut Conseil scientifique a validé ce type de pratique. Au Haut-Karabakh, la trêve tient encore ce matin mais elle reste fragile. Cette nuit, des bombardements ont visé la deuxième ville de la région. La Turquie, principal allié de Bakou, a tout intérêt à une reprise des combats. Explication de notre correspondante à Istanbul. Aux États-Unis, Donald Trump n'est plus contagieux, affirme son médecin. Et selon le candidat républicain, le coronavirus va bientôt disparaître grâce aux recherches des laboratoires américains. Et à la fin de ce journal, Nadine Epstein s'interrogera dans la face cachée du globe sur le rôle de la France au Proche-Orient. Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, a été la cible d'une attaque cette nuit par une quarantaine de personnes. Les faits sont déroulés dans la cité sensible du Bois-l'Abbé. Il s'agit d'un quartier dit QRR, de rénovation urbaine. Les assaillants étaient munis de mortiers, d'artifices et de barres de fer. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Des poubelles et des voitures ont été incendiées, des véhicules de police dégradés. Aucun blessé n'est à déplorer. En avril dernier, déjà, une trentaine d'individus s'en étaient pris à ce même commissariat, scénario identique en 2018. Mais cette fois, une étape a été franchie, déplore Laurent Jeanne. C'est le maire de Champigny qui fait partie du Parti libre de Valérie Pécresse.
C'est la première fois qu'on a une attaque qui vise directement des fonctionnaires de police. On a franchi un degré différent. Heureusement que nous avions eu un SAS, sinon je pense qu'on aurait pu avoir jusqu'à 2 morts au cours de la nuit dernière. Et on a une difficulté, effectivement, c'est que comme nous avons eu 30 policiers dans le cadre du QRR qui ont été ajoutés, je pense qu'il y a aujourd'hui des débuts de résultats qui dérangent un certain nombre de trafics et qui expliquent peut-être cet élément-là. Un autre élément d'explication, c'est qu'on a eu une interpellation qui ne s'est pas passée idéalement il y a quelques jours, avec un jeune qui est tombé de son scooter, qui essayait de fuir. Certains ont envenimé un peu les choses sur les réseaux sociaux pour dire que la police était responsable, ce qui n'était pas le cas. Et on a déjà vu ce processus dans d'autres quartiers du même type. À partir du moment où on met de la vidéo, où la police est plus présente, ça dérange un certain nombre de trafics. Oui. J'ai succédé à un maire communiste qui a toujours refusé de mettre en place de la vidéoprotection et de pouvoir réaliser des enquêtes pour pouvoir démanteler des réseaux où on sait que la vidéo est un élément essentiel. Après, ça ne fait pas tout. Hein. Il faut aussi qu'il y ait de la culture, qu'il y ait du sport, qu'il y ait de la possibilité de trouver de l'emploi. Et tout ça, c'est ce sur quoi nous travaillons. Alors ça prendra un peu de temps. Hein. C'est clairement la volonté que j'ai pour ce quartier comme pour l'ensemble de la ville.
Laurent Jeanne, interrogé par Isabelle Souquet. Réaction du ministre de l'Intérieur sur Twitter ce matin. Les petits caïds n'impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Gérald Darmanin de réaffirmer également son soutien total aux forces de l'ordre de Champigny. Et à présent, cette illustration de la surcharge de travail des personnels soignants, alors qu'hier, près de 27 000 nouveaux cas de Covid ont été diagnostiqués en France. À Nantes, même porteur du coronavirus, des membres du service de réanimation du CHU continuent de travailler. 11 d'entre eux ont été testés positifs depuis le mois de mars. Et s'ils sont asymptomatiques, le Haut Conseil de Santé publique valide le fait qu'ils puissent encore être opérationnels. Et Marion Ferrer, d'autres services du CHU sont concernés.
Le SAMU et le service des urgences sont aussi concernés. Un phénomène qui inquiète de plus en plus le personnel soignant, selon Olivier Terrien, secrétaire général CGT du CHU de Nantes.
Ces professionnels qui travaillent autour d'eux nous ont interpellés pour faire valoir leur droit de retrait. La sécurité sociale, elle dit aujourd'hui, si vous êtes contact, si vous êtes positif, vous devez être isolé. Eh bien nous, c'est tout le contraire. La pierre, elle est vraiment à jeter à l'administration qui aujourd'hui, elle lançait des recrutements. Ça permettrait d'écarter aujourd'hui tous les professionnels qui sont testés Covid+, pour pouvoir les remplacer.
Une information que nous confirment des médecins de l'hôpital nantais, inquiets pour leurs conditions de travail, pour leur santé et celle de leurs proches. Mais une situation exceptionnelle, selon Jean Régnier, chef du service réanimation.
Ils vont toujours voir leur médecin traitant. Et dans nos services, il y a un vrai impératif de continuité des soins. Effectivement, ponctuellement, s'ils vont très bien, s'ils se sentent très bien, et s'ils le souhaitent, ils peuvent venir travailler. Compte tenu de toute l'attention que l'on porte aux mesures barrières, à la protection des soignants de nos équipes, à la protection de nos malades, il y a franchement pas de raison d'être inquiet.
Et pour le moment, le CHU assure qu'aucun patient pris en charge à Nantes n'a été contaminé au coronavirus au sein de l'hôpital.
Marion Ferrer de France Bleu, Loire-Océan. Et puis cette enquête menée par l'Ordre des infirmiers auprès de 60 000 personnes et dont les résultats sonnent comme une alarme. Environ 40% des infirmiers interrogés déclarent que la crise sanitaire leur a donné envie de changer de métier. 57% d'entre eux se déclarent en burn-out. Information du Parisien ce matin. Un happening a eu lieu ce matin, place du Panthéon, pour réclamer une nouvelle fois que l'avocate Gisèle Halimi puisse y reposer. Ce 11 octobre est la date anniversaire du procès de Bobigny, lors duquel cette militante féministe avait défendu une jeune fille qui, après avoir été violée, avait avorté. Victoire clé, bien sûr, pour la légalisation de l'avortement en janvier 1975. Marlène Schiappa annonce dans le Parisien ce matin que le gouvernement veut interdire les stages de conversion sexuelle. Il s'agit en fait de pseudo-thérapie visant à modifier l'orientation sexuelle de jeunes gays ou de jeunes lesbiennes. La ministre déléguée en charge de la citoyenneté rappelle que ce type de stage est déjà interdit en Allemagne pour les mineurs et que les Pays-Bas et la Belgique s'apprêtent aussi à légiférer sur le sujet. 40 maires et présidents d'intercommunalités plaident pour que l'Union européenne soit plus présente encore dans la transition écologique. Ils signent une tribune dans le JDD. Ils estiment que les centaines de milliards d'euros du plan de relance européen devraient être une opportunité pour financer le Green Deal. Dans le Haut-Karabakh, le cessez-le-feu humanitaire obtenu la nuit de vendredi à samedi, reste extrêmement précaire. Ce matin, la situation est plus calme que la veille, a estimé le dirigeant arménien à la tête de ce territoire séparatiste. Mais quelques heures auparavant, des bombardements à Gandja, la deuxième ville de cette région, ont fait 7 morts et une trentaine de blessés du côté des civils. Bakou a prévenu que ces opérations militaires ne cesseraient définitivement qu'en cas de retrait arménien du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan peut compter en tout cas sur le soutien sans faille de la Turquie qui a tout intérêt pour l'instant à la poursuite des combats. À Istanbul, le décryptage d'Anand Lauer.
La Turquie avait accueilli avec beaucoup de réserve l'annonce d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Les autorités d'Ankara avaient présenté la nouvelle comme un geste de la part de l'Azerbaïdjan pour laisser le temps à l'Arménie de retirer ses forces des régions disputées, comme un ultimatum en somme. Les bombardements des dernières heures, notamment celui de Gandja, risquent de verser de l'eau au moulin de la Turquie, qui pousse depuis le début Bakou à intensifier les combats. Il y a quelques jours, des responsables à Ankara avaient reconnu que des avions de chasse turcs se trouvaient en Azerbaïdjan pour dissuader l'Arménie, niant en avoir fait usage. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait reconnu pour sa part que son armée utilisait des drones achetés à la Turquie pour frapper des cibles arméniennes. Si les combats s'intensifient et dégénèrent en guerre ouverte, la question d'une implication directe et affichée de la Turquie pourrait se poser assez vite. Ankara a déjà dit ces derniers jours attendre les instructions de Bakou.
Et les échanges de prisonniers doivent commencer aujourd'hui. Donald Trump, rayonnant et sans masque sur le balcon de la Maison Blanche lors d'un meeting de campagne à domicile, donc hier, il a une nouvelle fois brouillé les lignes entre le candidat et le président. Mais fidèle à lui-même, il a de nouveau relativisé la gravité de l'épidémie de Covid. Dès lundi, le président américain se rendra en Floride, puis en Pennsylvanie mardi et le jour suivant dans l'Iowa. Pourtant, Benjamin Fontaine, le président américain n'est pas officiellement guéri.
Donald Trump a réalisé un test PCR hier matin, samedi, mais en aucun cas le médecin n'indique que celui-ci est négatif. Il affirme que sa charge virale est en baisse. Le docteur Conley ajoute que Donald Trump n'a plus de fièvre depuis plus de 24 heures et que son état de santé général s'améliore. Mais est-il vraiment sorti d'affaire? Certains épidémiologistes américains en doutent. En tout cas, à partir de ces éléments et au regard des critères fixés par le Centre de prévention de lutte contre les maladies, Donald Trump peut sortir de quarantaine et retrouver les meetings qu'il affectionne tant. En réalité, il n'avait pas attendu ce nouveau bilan pour le faire. Hier, devant les quelques centaines de supporters venus l'applaudir au balcon de la Maison-Blanche, le président a lancé un « je vais bien » avant d'assurer que le coronavirus allait bientôt disparaître grâce au vaccin trouvé par les Américains.
La correspondance aux États-Unis de Benjamin Fontaine. Alors la disparition du virus, des propos qui riment surtout avec provocation au regard de la situation de la pandémie. En Inde, le cap des 7 millions de cas a été officiellement franchi aujourd'hui. Mais dans le deuxième pays le plus peuplé au monde, ce chiffre pourrait être bien en deçà de la réalité car les taux de dépistage restent faibles. La soprano canado-américaine Erin Wall est morte ce vendredi. On ne l'a appris qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la cantatrice avait 44 ans. Elle est décédée des suites d'un cancer du sein. Elle a été montée sur les plus prestigieuses scènes des opéras au monde. Elle a été dirigée aussi par les plus grands chefs d'orchestre. passe. Et puis on passe à la face cachée du globe. Nadine Epstein revient sur le rôle de Paris au Proche-Orient.
Bonjour à vous. La France peut-elle tenir un rôle de facilitateur de paix au Proche-Orient, devenir un médiateur entre Israéliens et Palestiniens? Le président de la République a choisi un infatigable militant de la réconciliation pour mener une mission auprès des deux sociétés. Ofer Bronstein, coprésident du Forum pour la paix, est chargé depuis le mois de juillet de trouver les moyens de renouer le dialogue entre les deux peuples. Il s'exprime pour la première fois sur cette tâche que lui a confiée Emmanuel Macron.
Le président Macron m'a confié cette mission pour identifier des acteurs nouveaux, pour identifier des projets, pour voir quel rôle la société civile pouvait jouer et de venir avec des propositions qui peut-être plus tard seront traduites aussi par des initiatives politiques. Si je devais résumer la mission qui m'a été confiée, c'est de redonner envie aux uns et aux autres de se reparler. C'est entre Israéliens et Palestiniens que cette dynamique de réconciliation, de paix devra se faire. Quotidiennement, des Israéliens et des Palestiniens font des choses ensemble, entre médecins israéliens et médecins palestiniens, entre des hôpitaux israéliens et des hôpitaux palestiniens. Donc ça, c'est un très bon exemple en période de crise de coopération israélo-palestinienne. Je vois, j'entends tous les jours des Zooms, des nouvelles pages Facebook, des nouveaux comptes Twitter, des nouveaux groupes WhatsApp qui se créent entre Israéliens, entre Palestiniens, entre jeunes de la région. Il y a une volonté de créer une dynamique qui est constructive. Vous savez, tous les sondages, depuis les accords d'Oslo aujourd'hui, avec des petites variantes, démontrent que la majorité des Palestiniens et la majorité des Israéliens veulent vivre en paix et croient encore en la solution des deux États qui vivraient en bon voisinage et dans la sécurité, dans la dignité, dans la justice. Malheureusement, il y a un décalage entre ce que veulent les Israéliens, ce que veulent les Palestiniens et ce que fait la classe politique. Vous savez, ces derniers jours, vous pouvez voir des milliers d'Israéliens, surtout des jeunes, qui manifestent quotidiennement en Israël parce qu'ils veulent un meilleur avenir, parce qu'ils veulent un changement de priorité nationale. Je vois le même phénomène chez les Palestiniens. De plus en plus de jeunes Palestiniens disent « Oh, c'est notre histoire, c'est notre avenir, on veut prendre les rênes, on a quelque chose à dire et on veut le dire ». Donc il faut encourager ces jeunes forces vives des deux sociétés à prendre des initiatives et à dessiner eux-mêmes leur avenir. C'est de leur avenir qu'il s'agit en fin de compte.
Le premier obstacle, c'est qu'ils ne peuvent pas se rencontrer.
Vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, le fait que des hommes et des femmes, des jeunes palestiniens ne peuvent pas circuler librement, qu'il y a des checkpoints et des soldats israéliens qui les contrôlent tout le temps, qu'ils doivent souvent laisser passer pour aller étudier ou pour aller à l'hôpital. Depuis 2001, les Israéliens n'ont pas le droit, selon la loi israélienne, de rentrer dans les territoires palestiniens. Ceux qui veulent s'y rendre doivent demander une autorisation spéciale. Et les Palestiniens ne peuvent pas rentrer librement en Israël sans recevoir une autorisation spéciale de la part des autorités militaires israéliennes. Et ça, c'est absolument tragique. Il y a une nouvelle génération d'Israéliens et de Palestiniens qui sont nés après cette seconde intifada, qui ont 20 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais vu de Palestiniens, qui n'ont jamais vu d'Israéliens. Vous savez, il y a un projet palestinien que je suis depuis plusieurs années parce que je le trouve extraordinaire, c'est la nouvelle ville de Rawabé. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Rawabé et j'ai rencontré un jeune palestinien qui venait de finir ses études. Et on était sur la colline où se trouve Rawabé, on voit Tel Aviv de cette colline, parce que c'est à 40 minutes de route de Tel Aviv. Et je lui dis, c'est fantastique, on peut voir la mer. Et il m'a dit, mais je ne suis jamais allé à Tel Aviv. Et il me dit, vous savez, vous êtes le premier Israélien que je rencontre. C'est tragique. Et les Israéliens, pareil, ne peuvent pas profiter de ce que peuvent leur proposer les villes de Ramallah, de Jenin, de Toul Karem ou de Shrem. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est encourager d'abord des projets israélo-palestiniens. Les deux ont à gagner. Il est obligatoire aujourd'hui pour nous d'avoir une approche qui prend en compte le fait que les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas dans la même situation. Les Israéliens continuent à occuper pas seulement des territoires, mais d'occuper les Palestiniens. Il va falloir trouver, j'espère que je trouverai certaines formules à proposer au président Macron qui pourraient réunir Israéliens et Palestiniens à tous les niveaux et redonner cette envie que l'on a tous de voir les Israéliens et les Palestiniens de vivre en paix.
Ofer Bronstein, un militant de la paix de longue date. 400 musiciens britanniques se sont réunis cette semaine devant le siège du Parlement de Londres pour jouer 20 secondes du morceau « Mars », extrait des planètes de Gustav Holst. 20 secondes symboliques comme les 20% d'aide financière que le gouvernement accorde aux musiciens indépendants. Ils protestaient contre les déclarations du chancelier de l'échiquier Rishi Sunak qui a conseillé aux artistes de chercher du travail dans d'autres secteurs. Chacun doit trouver des moyens de s'adapter à la nouvelle réalité, a expliqué le ministre des Finances. Une prise de position malvenue, car selon une enquête du mois dernier, 34% des musiciens professionnels britanniques envisagent d'arrêter leur carrière, faute d'argent, depuis la pandémie du Covid-19.
La face cachée du globe en version longue, c'est à retrouver sur franceculture.fr. La météo pour cet après-midi, alternance d'averses et d'éclaircies sur une large partie du pays. Seule la Bretagne, le Cotentin et la Seine-Maritime ainsi que la Corse et une bande allant des Pyrénées-Atlantiques à la Savoie échapperont aux gouttes. Les températures s'échelonneront de 11 à 16 sur la moitié nord et de 9 à 19 plus au sud.